BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Midi, il est midi, soyez les bienvenus dans 60 minutes business encore depuis VivaTech aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Comment va la tech? Comment va la French Tech? Bon, on a fêté avant-hier la 27e licorne, mais il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui, vous le savez. L'inflation, la volatilité sur les indices américains, le Nasdaq, les remontées des taux d'intérêt, on en a parlé hier soir. Voilà, est-ce que les prochains mois, les prochaines années seront aussi enjouées? Et quels sont les défis qui attendent la French Tech? On va en parler bien sûr dans un instant avec nos invités. Puis comme tous les jours, vous savez qu'on vous montre des illustrations pratiques, comment des grands groupes qui ne sont pas de la tech s'approprient les outils de la tech pour faire évoluer leur business model. C'est Lancôme, par exemple, qui sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de cette beauty tech dont tous les grands groupes de cosmétiques s'emparent aujourd'hui. Voilà ce qu'on vous raconte pendant une heure avec Lorraine Goumeau aussi qui nous rejoint dans un instant. BFM Business avec vous, tout ça après que Thomas Schnell nous aura donné les grands titres de l'actualité de ce jeudi. Bonjour mon cher Thomas.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce jeudi, c'est les bourses européennes qui sont bousculées après la décision historique de la Fed de rehausser de 75 points de base ses taux directeurs. Les marchés européens secoués, les bourses européennes s'enfoncent dans le rouge. On verra ça avec Antoine Larry-Gaudry dans un instant. La Banque Centrale Suisse a même décidé de resserrer elle aussi sa politique monétaire et c'est une première depuis 2015. Il faut aider l'Ukraine pour qu'elle résiste et qu'elle l'emporte. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, accompagné d'Olaf Scholz et Mario Draghi à Irpine. Aujourd'hui, les trois dirigeants des plus grandes économies d'Europe sont en Ukraine pour apporter leur soutien au peuple ukrainien. Par le soutien financier, nous avons commencé, Européens, à apporter du financement pour reconstruire ces villes qui ont été touchées, dévastées pour certaines, a déclaré le président de la République. Les États-Unis, de leur côté, ont annoncé une nouvelle enveloppe, une nouvelle aide militaire $1 milliard pour des armements pour accompagner l'Ukraine. Face à la vague de chaleur qui traverse la France, RTE est contraint d'importer de l'énergie de nos voisins européens. La consommation augmente avec l'utilisation massive des ventilateurs, des climatisations, combinée à une faible disponibilité de notre parc nucléaire français. Le gestionnaire du réseau attend un pic de consommation aujourd'hui à 13h de 55,5 gigawatts. Il n'était que de 52 gigawatts la semaine dernière. Certains pays comme l'Italie ou l'Espagne ont décidé de limiter, eux, le niveau de la climatisation afin d'économiser de l'énergie, suite notamment à la demande de Bruxelles de mettre fin à la dépendance européenne au gaz russe. Les ventes automobiles en Europe, elles, continuent de chuter, moins 11% en mai par rapport à mai de l'année dernière, avec 948 000 immatriculations dans la zone euro. McDonald's capitule finalement. Il accepte de payer l'amende d'1,2 milliard d'euros à la France et échappe ainsi aux poursuites pour fraude fiscale. La justice française soupçonne le groupe de restauration d'avoir diminué artificiellement ses bénéfices avec des redevances versées à la maison mère de McDonald's qui est basée au Luxembourg et donc imposée seulement à 2% et non 33%. En acceptant de signer cette convention avec le parquet national financier, la maison mère de McDonald's évite ainsi un procès, c'est l'amende la plus importante signée à ce jour en matière de fraude fiscale. Et puis cette décision radicale de Veolia, le géant des services à l'environnement, vend une partie des activités déchets de Suez au Royaume-Uni afin de mettre un terme à l'examen en cours par l'autorité de la concurrence britannique des conséquences de l'OPA de Veolia sur Suez. Midi 4 sur BFM Business. On jette un œil à la bourse, rejoindre Antoine Larry-Gaudry. Antoine, la place parisienne est secouée. Où est-elle aussi après la décision de la Fed?
Oui, les marchés déstabilisés. Alors, pas tant par la décision de la Fed que par la décision surprise de la Banque Nationale Suisse de relever son taux directeur de 50 points de base ce matin. Et ça, c'était pas du tout attendu et dans les dynamiques de politique monétaire prévues. On attend la décision de la Banque d'Angleterre à 13h. Et au vu de ce qui se passe et de ce qui a été décidé ces dernières heures, la BCE se retrouve quand même relativement isolée dans son initiative de politique monétaire de remontée très graduelle des taux et de poursuite d'une certaine manière de sa politique accommodante concernant la gestion de ses actifs et de ses titres de dette. On a donc un CAC 40 qui est déstabilisé, qui perd 2% là en ce moment. On était même sous les 5900 tout à l'heure. On était à 5907, mais on est vraiment très proche maintenant de nos plus bas annuels. Moins 2,42 pour l'Eurostock 50, moins 2,65 pour le DAX à Francfort. L'autre fait marquant de cette séance, c'est le très fort repli, ça fait 48 heures que ça dure, des prix du pétrole. On est sous les 120 $, et bien pour le Brent de Mer du Nord à 117. Fort recul aussi du brut léger américain du côté des 114. Et ça, bah alors ça plombe le secteur de l'énergie, avec Engie qui recule de 7,3% à 11,32 €. On a également dans le même ordre d'idée les valeurs cycliques. Et oui, si les banques centrales commencent à relever leurs taux de manière agressive et peut-être même un peu plus que prévu, bah tout ça va perturber les cycles économiques et ça perturbe ArcelorMittal en ce moment qui perd 4,5% à 25,34 €. On a Saint-Gobain aussi qui perd 4,4% à 46,62 €. Cela dit, on a des dossiers qui montent bien, qui résistent. EuroAPI toujours très robuste, un plus 2,6% à 14,67 €. On a Thales plus 0,8 à 114,75 €. Orange encore plus 0,15 à 10,90 €. Et la plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Euronext, soutenue par une bonne recommandation. Le titre gagne 2,9% à 77,64 €. A signaler un nouveau coup de faiblesse du Bitcoin qui est à 21 000 $. Le CAC 40 perd 2%, donc à 5 908 points. Et l'euro s'affaiblit à 1,04.
Merci Antoine. Midi 6 sur BFM Business. On retrouve tout de suite Guillaume Paul, toute l'équipe de 60 Minutes Business à Vivatech. À vous Guillaume.
Merci, merci mon cher Thomas. Oui, à Vivatech, dans une ambiance toujours aussi explosive. Il y a de plus en plus de monde. Il y avait déjà beaucoup de monde hier. Ça ne s'arrange pas aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. Donc c'est très bien. Voilà, on va s'intéresser à la santé de la French Tech aujourd'hui. Alors on a fêté, vous savez, avant-hier, la 27e licorne française, EcoVadis pour ne pas la nommer. Beaucoup de licornes désormais, mais des défis aussi pour l'environnement de la French Tech. Notamment, on va en parler avec nos invités. Clara Chappas qui est avec nous. Bonjour Clara.
Bonjour.
Bienvenue, directrice de la mission French Tech. On fait le pitch en quelques secondes, la mission French Tech aujourd'hui, Clara.
La mission French Tech, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner la croissance de l'écosystème, de faire en sorte qu'il y ait toujours plus de start-up en France et que cet écosystème continue à grandir. On est au sein du ministère de l'économie et des finances, on a une administration et on travaille tous ensemble avec les entrepreneurs et les investisseurs.
De plus en plus, pas forcément que des licornes, mais de plus en plus de start-up. Voilà, c'est pas une fin en soi. Jean-Marc Patouillot est avec nous également. Bonjour Jean-Marc, bienvenue.
Bonjour.
Managing Partner chez Partech, qu'on présente plus, plateforme française d'investissement techno, présente dans plus de 200 entreprises, c'est ça, dans une quarantaine de
230.
Pays. 230 entreprises dans une quarantaine de pays aujourd'hui. Je le disais, donc 27e licorne avant-hier, EcoVadis, dont vous avez participé à la croissance, je crois, chez Partech, notamment Jean-Marc.
Nous étions rentrés très tôt et dans le capital d'EcoVadis. On a été le premier investisseur avant que CVC nous rejoigne, puis plus récemment General Atlantic et Astorg, effectivement.
Et aujourd'hui, ils sont là. Je voudrais qu'on dise un mot quand même, avant de parler des inquiétudes du moment, de la façon dont le nombre de licornes a explosé en France. Il y a 3 ans, on les comptait, alors, je vais dire sur les doigts d'une grosse main, quelque part. Les Pays-Bas, la Suède étaient devant nous. Aujourd'hui, on rattrape une partie du retard avec le UK et l'Allemagne. Comment vous expliquez qu'en 3 ans, les choses se soient aussi rapidement décantées, Clara? Comment?
Hier, j'étais sur un panel avec John Chambers, donc qui est un grand leader américain qu'on ne présente plus et qui disait une chose, je pense, qui est extrêmement juste et flatteuse pour la France. Il n'y a pas de meilleur endroit aujourd'hui en Europe pour lancer un business innovant que la France. Et tout ça s'est monté dans les 3 dernières années. Donc en effet, on est passé en 2017 de 3 licornes.
C'est l'effet John Chambers ou c'est autre chose, Clara? C'est pour vous.
De 3 à 27 licornes en quelques années. C'est l'effet d'abord du talent de nos entrepreneurs qui ont, je pense, enfin aujourd'hui le moyen de leur ambition. On voit des très beaux fonds comme Partech qui sont capables de les accompagner tout du long. EcoVadis en est un exemple formidable. Et du soutien du gouvernement qui a rendu la France comme un pays vraiment très attractif pour les startups, pour les talents, avec un certain nombre de dispositifs, le French Tech Visa, les flat tax sur les gains en capitaux, les BSPCE, tous ces dispositifs qui font qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus attractif de se lancer en France qu'ailleurs.
Ouais. D'accord avec ça, Jean-Marc, c'est aussi ce qui a été fait sur le plan fiscal, sur le plan réglementaire, qui a permis de décoincer les choses dans l'espace de 3 ans, finalement, pour vous.
Oui, c'est tout à fait ça, mais c'est aussi, en fait, c'est un cycle vertueux d'entrepreneurs qui réussissent et qui crée 10 vocations à partir de leur propre expérience. Donc il y a un effet démultiplicateur.
Plus de gros deals, plus de grosses levées de fonds. Je me souviens que pendant longtemps, jusqu'à quelques années, on parlait un petit peu du plafond des levées de fonds. Il y avait un chiffre qui sonnait comme 100 millions. Bon, aujourd'hui, on a dépassé sur beaucoup de deals, ça, finalement.
Oui, mais alors, je pense que les investisseurs savent raison garder. On garde la tête froide. Et la preuve, s'il en est, vous parliez de licorne tout à l'heure. Oui. Une licorne, ça se définit par rapport à une valorisation. Oui. Je pense que chez les investisseurs aujourd'hui et chez ceux qui nous soutiennent, oui, il y a plus cette notion de ce qu'on appelle centaure, c'est-à-dire ceux qui sont capables de prouver qu'avec ces capitaux levés, ils sont aussi capables de faire du volume d'affaires, du chiffre d'affaires.
Miracle notamment était là aussi, et Covadis sont là pour nous montrer que c'est pas une fin en soi effectivement d'être une licorne aujourd'hui, il faut pouvoir délivrer, Clara, on est d'accord.
Je pense que c'est ni une fin en soi d'un point de vue disons valorisation capitalistique, indicateur financier, et c'est ni une fin en soi non plus pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive un entrepreneur? C'est de créer des solutions à l'échelle, c'est de pouvoir employer. Aujourd'hui, il y a 1 million de personnes qui travaillent dans les startups de la French Tech, hein, de façon directe ou indirecte. Ce chiffre devrait doubler dans les 3 prochaines années. Donc c'est ça la French Tech, c'est pas seulement des valorisations, mais la valorisation en quelque sorte, c'est une façon de pouvoir témoigner d'une capacité à passer à l'échelle.
Il y a des acteurs comme Partech qui accompagnent les entreprises françaises. Alors, est-ce qu'il y a un débat autour de, pour vous aujourd'hui encore, autour de trop de capitaux anglo-saxons?
Il n'y a pas trop de capitaux anglo-saxons.
Et pas assez de capitaux français, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est ça.
Il y a des capitaux français. Non, ce qui est important, c'est que ces capitaux, ils soient fléchés, ils soient investis intelligemment. Et donc, une fois de plus, il est important de garder la tête froide. Nous, on perçoit cette espèce de petit hiver de l'investissement post-inflationniste, post-guerre, post-pandémie, plutôt comme une bonne chose qui permettra de revenir probablement à des choses un petit peu plus raisonnables en termes de valorisation. Donc, mettre l'argent intelligemment au travail.
Tout ça est peut-être opportun quelque part. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Clara?
Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je pense que si on revient encore une fois à quelques années en arrière, il y avait très peu de fonds étrangers qui s'intéressaient à la French Tech. Aujourd'hui, cette attractivité, c'est le résultat d'un énorme travail qui est positif pour l'environnement startup parce que ça donne plus de moyens et qui en plus est finalement complémentaire à tout l'effort de financement qui a été déployé par le gouvernement français via les fonds TIBI, mais aussi par à l'échelle européenne. Il y a 4 milliards d'euros qui ont été annoncés en début d'année pour financer les start-up de l'Europe dans leur levée late stage via du fonds de fonds. Ouais. C'est important parce que quand on rentre dans un contexte économique incertain comme aujourd'hui, il faut pouvoir avoir plusieurs options et ne pas dépendre seulement de ces acteurs américains ou asiatiques qui aujourd'hui sont peut-être un peu plus prudents dans leurs investissements.
Et la bourse, est-ce qu'il y a un problème d'accès à la bourse pour vous? Est-ce que c'est un sujet qu'il faut rouvrir? Est-ce que c'est la panacée pour tout ou partie de ces entreprises d'aller en bourse? Et l'autre débat sur lequel je voudrais avoir votre point de vue, c'est certains disent qu'il faut un Nasdaq européen. Est-ce que pour vous, c'est un sujet qu'il faut rouvrir urgemment aujourd'hui?
Alors, le Nasdaq européen a bel et bien existé. Oui. C'était dans un autre siècle. Ça s'appelait l'ISDAC.
C'est vrai.
Avec le succès qu'on lui connaît. Non, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème de structure ou de gouvernance ou de véhicule. Je pense qu'il y a quand même une réticence en Europe, en tout cas du point de vue des investisseurs, à aller sur le marché boursier parce qu'on n'y trouve pas forcément les puissances d'analyse qui permettent aux investisseurs institutionnels d'être très actifs, d'être très au courant de l'évolution des sociétés.
Clara.
Et j'ajouterais que c'est aussi un problème de liquidité. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut engager ces investisseurs institutionnels à se placer sur les valeurs tech en bourse? C'est pour moi peut-être un quelque chose qui s'est passé la semaine dernière qui est très positif, c'est la création de Euronext Tech Leaders qui rassemble un certain nombre d'entreprises à l'échelle européenne qui sont vraiment les leaders de la tech. Pourquoi? Question de visibilité, pouvoir vraiment montrer quelles sont ces entreprises de la tech, les flécher aux investisseurs, mais aussi une question de financement avec la BPI, la CDC qui ont tous les deux annoncé qu'ils allaient investir plusieurs centaines de millions d'euros sur la liquidité de ce marché.
Jean-Marc Patouillot.
Oui, je voulais juste rebondir sur ce point. Il faut bien comprendre que ce qui anime les investisseurs institutionnels ou privés qui viennent dans le private equity, c'est cette attente de liquidité.
Oui.
Ecovadis, quand on fait une opération, une transaction, cette liquidité, elle est offerte à tous ceux qui préexistaient dans le capital.
Oui.
La bourse, c'est pas un événement de liquidité. Enfin, ça peut en être un, mais pour une petite partie de la transaction. Et donc, c'est aussi un souci dans la manière dont les investisseurs ont à manager leur cash flow.
Alors justement, il nous reste quelques 3-4 minutes, puisque vous parlez de liquidité justement. Ben, on le disait, il y a des inquiétudes en ce moment, des interrogations. l'inflation, les oscillations, on va dire ça comme ça, des indices américains du Nasdaq, la remontée des taux d'intérêt, on l'a vu hier soir, ce que nous annonçait la Réserve fédérale américaine. Est-ce que vous dites que dans cette configuration, oui, vous me dites on va peut-être revenir à des choses plus saines, plus raisonnables, mais est-ce que le marché ne va pas un petit peu se gripper? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que finalement on verra peut-être apparaître moins de licornes françaises, notamment ces prochaines années, qu'on en a vu apparaître ces dernières années, finalement, tout simplement?
Alors, pour mettre les choses en perspective, aujourd'hui le niveau du Nasdaq, qui est le marché de référence en matière de tech, il est tout simplement au niveau où il était en septembre 2020.
C'est proportion gardée, il faut l'avoir en tête.
C'est pas très catastrophique.
C'est vrai.
Certaines valeurs ont souffert plus que d'autres, mais c'est loin d'être catastrophique.
Oui.
Donc il y a nécessairement un phénomène de va-et-vient. Là, on est peut-être dans le va à cause des pressions inflationnistes et ses conséquences sur la supply chain.
Oui.
Mais vous comprenez bien que c'est aussi des opportunités de rentrer de nouveau sur le marché, que ce soit en bourse les valeurs établies ou même dans le private equity ou le venture.
Clara.
Et pour aussi mettre en perspective ce qui se passe aujourd'hui, on est là mi-juin avec les sociétés de la French Tech qui ont levé plus de 8 milliards d'euros en 2020 encore, pour prendre la même année de référence, donc pré-pandémie. Sur toute l'année, seulement 5 milliards avaient été levés.
C'est ça.
On a déjà largement dépassé. C'est d'ailleurs un record pour un premier semestre. Et rien que cette semaine, on a parlé d'Ecovadis, on a eu aussi ImCheck dans les biotech qui a levé près de 100 millions. On a eu un certain nombre de plateformes aussi plutôt dans les premiers early stage, Série A, Seed, qui continuent à lever. Donc on n'est pas à l'arrêt, mais par contre, il faut non plus ne pas être inconscient.
Oui.
Le contexte a changé, les levées de fonds prennent plus de temps. Les levées de fonds peut-être sont sur des valorisations plus ressemblantes au début de 2021 qu'à la fin de 2021.
Oui.
Mais les entrepreneurs en ont conscience.
Oui.
Et d'ailleurs, quand on échange avec eux sur cette dynamique, ils sont aujourd'hui dans une dynamique où ils se disent comment est-ce que je peux montrer que mon entreprise, pour revenir au Centaure, est sur une dynamique de profitabilité, une dynamique de consolidation du business et peut-être moins une dynamique de croissance à tout prix qu'on avait pu voir auparavant.
Et question additionnelle qu'on entend, c'est une question qui se pose, est-ce qu'avec cette remontée des taux américains, finalement, les investisseurs américains ne vont pas se recentrer d'abord sur leur marché domestique avant de revenir vers l'Europe? Est-ce que ce n'est pas un risque qui nous guette dans les prochains mois, finalement, Jean-Marc, en quelques mots pour terminer?
Oui, c'est possible, d'autant plus que ce sont les acteurs qui ont vraiment, excusez-moi l'expression, mais qui ont fait un peu vraiment n'importe quoi je pense à Tiger Global. Donc ils vont un peu se contracter, mais ça nous laisse de la place, nous investisseurs européens.
Oui, pour revisiter un petit peu les modèles, pour solidifier un petit peu tout ça. Bon, on est d'accord sur le fait, il nous reste 30 secondes, que les bases de la French Tech, elles sont solides aujourd'hui. Elles sont beaucoup plus solides il y a quelques années qu'il y a 20 ans, évidemment, au début des années 2000 et même au commencement de la crise de 2008, finalement, Clara.
En fait, la base de la French Tech, c'est de se dire on est face à une vraie digitalisation de nos modes de vie, de la façon dont les entreprises travaillent. Et ça, c'est un fondamental qui est là pour rester. Donc, on n'est pas du tout à risque. On est sur un secteur qui va continuer à porter l'innovation de demain.
Même sérénité, ouais. Jean-Marc, pour finir.
Oui, non, c'est ça. C'est la transformation digitale de l'entreprise pour une meilleure productivité. Mais en plus de ça, parce que ça, c'est le discours qu'on entendait il y a 2 ans pendant la pandémie. En plus de ça, de plus en plus prégnant, il y a le sociétal.
Donc,
la place de la femme dans la gouvernance. Il y a également le climatique, l'environnemental. Qui prend une place de plus en plus importante dans les préoccupations des dirigeants et des investisseurs.
Et les investisseurs, évidemment. Voilà la French Tech, des questions, mais sérénité sur le long terme, c'est le message aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de passer nous voir, Clara Chapaz, directrice de la mission French Tech, et puis Jean-Marc Patouillot, managing partner chez Partech. Merci beaucoup.
Merci
de passer nous voir. Dans un instant, on se retrouve dans 2 minutes. Frédéric Simotel qui va nous montrer des drones. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de drone. Et puis alors, une manière dont une grande entreprise qui n'est pas de la tech s'approprie les technologies aujourd'hui, c'est Lancôme. On est sur tout ce qui touche à la beauty tech. Ça nous concerne tous individuellement. Vous allez voir ça dans un instant. À tout de suite.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Allez, midi 22, on est de retour ici à Vivatech, à la porte de Versailles à Paris. Bon, alors on a parlé French Tech, on a parlé licorne, on a parlé grands chiffres, on a parlé généralité, marché américain, inflation, remontée des taux d'intérêt. On voulait vous montrer quand même un petit peu des choses pratiques, un petit peu ce que nous montre l'innovation ici du côté de la porte de Versailles. On va en parler dans un instant avec Annie Black qui est avec nous. Bonjour Madame Black.
Bonjour.
Vous êtes directrice scientifique du groupe Lancôme. On est dans les cosmétiques et vous allez nous montrer dans un instant, objet à l'appui, la façon dont chez vous on s'approprie les outils de la beauty tech, hein, cette beauty tech dont
tout
on parle dans un instant. On va revenir à vous dans un instant, mais on va d'abord retrouver, alors pas très loin, il doit être à quelques encablures d'ici, Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric, pour nous parler drone, parce que franchement, si on parle pas drone du côté de Vivatech, on a tout raté. Qu'est-ce que vous avez à nous montrer de beau, Frédéric?
Oui, Guillaume, ben, on est ici. Alors, c'est la société Volocopter. Vous savez, on en parle souvent sur BFM Business. Ben là, ça y est, on le voit en vrai. Il est derrière nous. C'est le Volocity. Donc, c'est cette. Alors, ça ressemble à un hélicoptère, mais c'est pas du tout un hélicoptère. C'est vraiment le drone de. Alors, c'est pas le drone de demain, c'est le drone d'aujourd'hui, puisqu'il a déjà fait ses premiers essais en vol. On va le retrouver à Paris 2024. Hein. Il fera des navettes entre le Stade de France, Roissy, le Stade de France, Paris. Il peut transporter deux passagers à environ 100 km/h, à 300 mètres d'altitude. Il n'y a pas de pilote à bord. Alors, il y aura un pilote à bord au début parce que la réglementation l'impose, mais à terme vous serez à bord, vous aurez votre tablette, vous aurez commandé votre drone et il viendra vous chercher. Alors sur des endroits les trajets seront précisés, et alors ce qui est important, et c'est là où je vais rebondir aussi sur l'une des thématiques de Vivatech, c'est que c'est un drone électrique, donc on est dans la mobilité verte, la mobilité pas polluante, et là c'est vraiment, on est dans l'un des axes forts, hein, cette année de ce salon Vivatech. Vous avez reçu Clara Chapaz il y a un instant qui a annoncé le lancement du Green 20. Le Green 20, ce sont les 20 startups qui vont être suivies pour tout ce qu'elles font dans le green. Ça va dans tous les domaines, c'est tous les secteurs d'innovation de rupture, c'est les changer les modes de consommation, c'est les nouveaux matériaux, c'est les technologies de mobilité verte. Voilà, les entreprises de la French Tech aussi sont appelées à faire leur bilan carbone. Aujourd'hui, elles ont signé un protocole, mais il n'y en a que 120 qui font vraiment leur bilan carbone. Elles seront 300 en 2022, elles seront 3000 en 2023. Donc voilà, on amène tout le monde sur ce bilan carbone. Et puis pour revenir sur ce green, c'est très important. Alors Clara Chapaz vous a dit, il y a Ecovadis, il y a Inset, voilà, on a ces entreprises qui marchent très bien. Et puis on a là j'en ai repéré quelques-unes, il y a Materup, ils font un ciment vert et local, voilà, il est fabriqué localement, c'est à base de nanoparticules. On est vraiment dans la deep tech, hein. Là c'est vraiment de la recherche très pointue. Un autre sujet, Urbanomy, c'est une société qui s'occupe de calculer l'empreinte carbone du salon, et ils ont calculé tellement bien qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait un peu compenser. Donc du coup, on va le Vivatech va acheter une forêt au sud de Paris de 130 hectares, voilà, pour compenser un peu tout ça. Nous avons aussi Charge 8, c'est une entreprise londonienne qui elle va capturer du CO2 de l'industrie, l'enfouir, le mettre avec des déchets et l'enfouir. Vous savez que c'est l'une des grandes tendances aujourd'hui. On a Enerbrain, ils ont un capteur qui est mis dans les bureaux des entreprises pour garder le même niveau de température, le même niveau d'hydrographie selon le nombre de personnes qui arrivent, les ordinateurs allumés. Voilà, on a comme ça tout un tas de startups. Il y a une dernière, un peu à côté, mais qui est pas mal. C'est chez Colas. Colas, c'est une filiale du groupe Bouygues. Ils s'intéressent à la route. Eh bien, ils ont développé un logiciel qui s'appelle InfraCare. Le principe, c'est de pouvoir filmer quelqu'un de la collectivité va rouler dans la ville et filmer avec une GoPro toutes les imperfections de la route, et c'est envoyé tout ça, et un maire, une collectivité aura comme ça en temps réel l'état des routes pour envoyer les travaux. Donc voilà, on est parti de ce drone, on finit sur la route, mais beaucoup de choses. C'est vraiment l'un des thèmes forts cette année, c'est vraiment l'impact, le green, l'empreinte carbone. Voilà ce qu'on peut retenir en tout cas de cette deuxième journée à Vivatech. Vous savez, il y a encore demain et puis samedi la journée grand public.
Merci beaucoup, merci mon cher Frédéric. À quelques encablures d'ici, attention avec les drones, hein. Revenez-nous entiers dans quelques instants. Bien, la beauty tech, donc Annie Black, je le disais, rebonjour, merci d'être avec nous, directrice scientifique du groupe Lancôme, alors qu'on ne présente plus, groupe de cosmétiques de luxe qui appartient à la galaxie L'Oréal, bien sûr, au milieu d'autres grands groupes. La beauty tech, déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que la beauty? Alors ça révolutionne l'industrie des cosmétiques, c'est la tech au service de notre peau, c'est ça Madame Black?
Complètement, c'est en ça. Train de vraiment révolutionner toute l'industrie cosmétique, et c'est vrai que la tech en fait rentre à tous les niveaux, ouais. Et en fait autant dans les outils diagnostiques, donc c'est ce qu'on peut voir aussi chez nous sur nos stands avec un appareil qui s'appelle Skin Screen, ouais. Qui nous permet de mettre entre les mains de nos conseillères de beauté des appareils pouvoir mesurer plein de choses à la surface de la peau, la texture, les pores, les rides, et arriver à faire un diagnostic beaucoup plus précis.
C'est ça.
Donc c'est inspiré de tous ces appareils qu'on a dans nos laboratoires qui servent à évaluer la performance de nos produits, mais qu'on a adapté pour pouvoir mettre en point de vente.
C'est-à-dire personnaliser les produits de luxe, c'est ça, les produits cosmétiques, c'est ça l'idée ?
Ça, c'est l'avenir. Avant de pouvoir personnaliser, en fait, donc on investit sur le diagnostic donc, pour que les femmes puissent mieux apprendre à connaître leur peau et ensuite leur proposer la routine la plus adaptée à leurs besoins.
C'est ça. Donc vous avez amené, alors vous avez amené quelques objets, on va les présenter d'une main, on ne pourra pas trop les manipuler, mais qu'est-ce que c'est ces objets que vous avez apportés ?
Alors le premier ici s'appelle un Shade Finder.
Ouais.
Donc c'est aussi un outil diagnostique, mais qui permet de mesurer la couleur de la peau.
Ouais.
C'est vrai que choisir un fond de teint aujourd'hui, c'est compliqué, surtout on a tout un éventail de teintes. Et en fait cet outil permet de mesurer la peau et les sous-tonalités de la peau, donc pour arriver à trouver exactement la bonne teinte de fond de teint. Et en plus, donc cet appareil va mesurer la peau, va aussi capter des données. Et en fait, ça va nous permettre de développer aussi des nouvelles teintes. Parce que quand on a démarré ce projet, on s'est dit, mais on veut avoir un outil qui va permettre à toutes les femmes de trouver leur teinte de fond de teint. Mais on s'est aperçu en fait qu'il nous manquait des teintes. Donc c'est tout aussi, il nous manquait des teintes. Donc ça nous a permis de développer des teintes complémentaires et d'élargir notre gamme de fond de teint. Donc c'est vraiment, pour nous, la Beauty X, c'est un cercle vertueux. Donc il nous permet d'apporter des informations, apporter un service à un consommateur.
Oui.
Mais ça a un impact aussi sur le développement de nos produits, pouvoir les améliorer.
Évidemment. Et un autre produit ici, un autre objet que vous nous avez amené. Alors qu'est-ce que c'est, ça, dites-nous, Madame Blanc.
Ça, c'est un appareil donc avec des LED, donc une lumière qui va apporter un bénéfice. Donc l'autre intérêt de la Beauty Tech, c'est de pouvoir apporter davantage de performance.
Ouais.
Parce qu'on a évidemment des formules, des sérums, des crèmes, mais en fait avec différents types d'énergie, comme ici on a un produit avec des LED, donc deux lumières différentes avec deux longueurs d'onde très spécifiques qui vont apporter un bénéfice supplémentaire sur la peau.
Ça, ce sont des objets qui, alors entre les mains, seront entre les mains de vos professionnels. Est-ce qu'on peut imaginer que ces produits s'invitent demain dans notre salle de bain finalement?
Tout à fait.
C'est ça aussi l'avenir.
Ce produit donc est inspiré aussi des devices qu'on peut retrouver dans des cliniques, mais celui-ci sera fait exprès pour être vendu et utilisé par des consommatrices à la maison.
Voilà.
Mais c'est vrai que avec les mois et les deux années qu'on vient de passer, change aussi un peu nos modes de consommation
bien
et
sûr.
On s'intéresse aussi beaucoup à ce qu'on peut faire en ligne et chez soi.
Ouais.
Et on développe nos outils de diagnostic aussi sur un smartphone, donc pouvoir faire un diagnostic chez soi.
C'est ça.
Et ensuite pouvoir arriver en magasin et choisir les produits qu'on a reçus en consultation online.
Le plus personnalisé.
Et on fait la même chose aussi avec Shade Finder.
Et ben voilà, la biotech au service de notre peau, l'industrie de la beauté des cosmétiques réinventée avec la tech. Voilà une illustration pratique qu'on voulait vous montrer ici. Il y en a tellement d'autres à Vivatech, mais celle-là était fort intéressante et on voulait faire un petit éclairage dessus. Merci beaucoup Annie Black.
Merci
beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui, la directrice scientifique du groupe Lancôme avec nous sur BFM Business. Merci infiniment. On va marquer une pause, on va vous redonner les grands titres de l'actualité dans un instant avec Thomas Schnell. Et puis on revient dans la foulée. Lorraine Goumeau, 60 minutes business continue jusqu'à 13h. Comme tous les jours, on répond à vos questions avec une dominante tech. Et puis on embauche, on recrute comme tous les jours avec la même dominante évidemment. A tout de suite.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 60 minutes business, BFM Business avec vous.
Eh oui, midi 34, merci mon cher Thomas, BFM Business avec vous. Avec vous, avec nous et avec Lorraine Goumeau, comme tous les jours. Bonjour Lorraine,
bonjour,
bienvenue.
Bonjour à toutes et à tous.
On rappelle les modalités, évidemment, comme tous les jours, hein, ici comme ailleurs, pour nous écrire, nous poser des questions, nous faire des offres d'embauche. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux. Avec vous, at bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com et tout ça, on vous le rappelle encore et toujours, mais c'est totalement gratuit. De quoi est-ce qu'on parle, Lorraine, ici?
On est toujours à Vivatech. On va parler de ce 20% de femmes qui occupent des postes dans l'informatique avec un grand I. Comment en faire pour que ce chiffre augmente? On a quelques commentaires, quelques réactions et beaucoup de questions qu'on va adresser à notre invitée du jour. C'est notre experte, c'est Sarah Huet. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Bonjour Sarah, bienvenue.
Merci.
Vous êtes la cofondatrice de A Female Agency, une entreprise qui aide les boîtes, peut-être certaines autour de nous à Vivatech, à féminiser leurs équipes. Mais plus que ça, qu'est-ce que c'est votre challenge au quotidien dans votre équipe?
Alors nous, on s'est lancé il y a un an et demi avec un constat très simple, vouloir féminiser les instances de direction pour les entreprises de la tech.
Ouais.
Start-up, scale-up, mais aussi fonds d'investissement. On travaille aussi pour quelques ESN et corporate. L'objectif, c'est de faire monter ce taux. Lorraine, on vous avait mentionné, 18% aujourd'hui de femmes managers. 18% de femmes managers. Et plus on monte dans les échelons, moins il y a de femmes. Donc quand on compte les C-level, et bien sûr, au niveau des fondateurs, c'est un vrai problème. Donc on a aujourd'hui monté ce cabinet de recrutement il y a un an et demi, qui aussi propose un grand nombre de services, puisque ces talents-là aussi attendent un service qu'on veut sur mesure.
Pour nous résumer en 30 secondes, les freins, les raisons qui font que malheureusement on plafonne à 18% aujourd'hui, Sarah, enfin,
Alors il y a plusieurs problèmes. Le problème, le premier, on va certainement en parler, c'est au sujet de l'éducation.
Oui.
C'est qu'on pousse moins les femmes sur des carrières scientifiques, dans les carrières informatiques. Souvent les parents, qui sont les premiers prescripteurs de l'orientation, orientent les filles et les femmes vers des carrières qui le sont moins dans l'informatique, à la différence des jeunes garçons. Ensuite, il y a des problèmes en rentrant dans les entreprises. Il y a beaucoup de comportements qui peuvent paraître inappropriés, sexistes. Oui. 70% des femmes qui ont subi des comportements inappropriés à l'école, puis après dans l'entreprise.
Oui.
Donc c'est sûr qu'il y a plein de problèmes. Et puis il y a ce fameux plafond de verre,
oui,
mais qu'on ne retrouve pas seulement dans la tech.
On a des témoignages qui illustrent tout ça apparemment, Lorraine.
Hein, oui, on vous a posé la question sur LinkedIn. On vous a demandé qu'est-ce que vous pensiez d'une équipe mixte. Est-ce que c'était nul, normal, mieux ou impossible parce qu'il n'y a pas de femmes? À 50%, vous nous répondez globalement que c'est normal et que c'est même mieux. Alors on a pas mal de témoignages. On a d'abord Aurélien qui nous a écrit sur LinkedIn. Il nous dit: j'aime bien les équipes mixtes parce que ça apporte beaucoup d'expérience humaine et professionnelle. On peut prendre le temps d'échanger et d'être solidaire dans la difficulté. Ça, c'est un des biais féminins d'être plus solidaire, Sarah?
Non, je pense pas que ce soit un biais féminin. Ce qui est sûr, c'est que la diversité apporte aussi de la performance. Donc quand on parle de mixité, on parle aussi, faut aussi parler de diversité. Nous, on travaille sur les enjeux de mixité, mais il y a aussi des enjeux de diversité au sein de la mixité. C'est des sujets intersectionnels qui nous touchent beaucoup aussi chez Ophimale Agency. Et en effet, travailler avec des collègues d'un genre différent, ou d'origine différente, ou de background différent, ou d'âge différent, ça apporte de la valeur, ça apporte de la synergie, et ça apporte pour les entreprises aussi de l'efficacité. Il y a plein d'études qui montrent que les entreprises sont plus performantes, notamment à très haut niveau, dans les comités de direction, dans les COMEX, et notamment c'est aussi l'objet de lois sur ces sujets.
Oui, on a évoqué déjà plusieurs fois dans cette séquence la loi Copé-Zimmermann qui a vocation à augmenter la parité dans les boards plus traditionnels. Est-ce qu'on pourrait cascader une telle mesure à l'intérieur de start-up, à l'intérieur de direction de fonds d'investissement ou de gens qui mettent des billes dans les start-up?
Alors merci pour cette question. Vous aviez justement Clara Chappaz juste avant sur le plateau et qui a lancé le pacte parité qui a été signé par plus de 69 entreprises aujourd'hui et dont la première mesure est de féminiser les conseils d'administration des start-up et des scale-up avec un objectif, comme la loi Copé-Zimmermann, de 40% de femmes en 2029. Nous, sur ces sujets, on est directement concernés. On place aujourd'hui des femmes dans les instances de direction. On va les placer demain à des instances aussi de gouvernance avec Female Agency, où on veut les emmener, on veut les faire progresser et les placer aussi en board, puisqu'il y a très très peu de femmes aujourd'hui en board.
Justement, on a un témoignage, là, Lorraine, je le vois aussi, Sébastien, qui nous écrit, voilà, jusqu'où faut-il aller pour imposer la parité? Est-ce qu'il faut forcer la parité?
En tout cas, la question est justement posée, mais les quotas ont démontré leur efficacité. Quand on prend Copé-Zimmermann aujourd'hui, le monde entier regarde la France, le monde entier nous envie nos quotas et nos femmes en conseil d'administration. On a 43% de femmes aujourd'hui en conseil d'administration. On plafonnait à 10% il y a plus de 10 ans. Donc les quotas fonctionnent. Est-ce qu'il fallait en arriver là? Sinon, il aurait fallu attendre, il me semble, 2050 pour arriver à une parité. Donc oui, les quotas marchent. Et on l'espère, vont aussi pouvoir cascader dans ces entreprises de la tech.
On va un peu brainstormer, mais on est à Vivatech. Tous les midis, avec Guillaume et l'équipe de 60 000 Business, on reçoit des boîtes qui cherchent des développeurs, toute seniorité, toute géographie confondue. On a donc évidemment envie de vous poser cette question, Sarah. Comment on fait pour féminiser des équipes de développeurs en particulier? Et on vous pose la question parce que vous avez un énorme tropisme tech dans votre agence.
Merci. Alors déjà, il y a 10% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. C'est déjà le premier problème, on en parlait au début de l'émission. Et il y a seulement aujourd'hui 17% de développeuses sur le marché. Après, on a la chance d'être en France avec des sociétés qui se montent et qui forment des femmes aussi. Je peux citer Adatech School ou même l'école 42 qui aujourd'hui a des promos quasiment mixtes. Aujourd'hui, il y a 46%.
Ils sont quasiment à la mixité.
Ouais,
on en parlait avec l'école 42 récemment.
La mixité. Alors, vous n'avez pas Xavier Niel ou d'autres gens qui peuvent témoigner, mais en tout cas, ils ont bossé pour. En revanche, c'est sûr que sur le recrutement, du coup, là, on parle de recrutement d'entreprise, mais le recrutement de ces écoles, il faut avoir un biais. Il faut avoir un biais pour rééquilibrer la balance.
Ouais.
Comme nous, finalement, on dit souvent, mais c'est de la discrimination. Non, ce n'est pas de la discrimination, c'est juste qu'on envoie des candidates dans un process de recrutement qui est ouvert chez nos clients pour simplement rééquilibrer la balance. Et après, évidemment,
d'un mot, je suis quand même frappé, l'influence des parents dans tout ça.
Ouais.
Les parents de ces enfants, de ces jeunes filles qui ont 20 et Enfin, ils ont quand même 45 ans. On est de son temps à 45 ans, on a quand même cette ouverture d'esprit. Non, il y a encore des blocages, même à ce niveau-là.
Je pense qu'il y a un vrai changement de société sur la génération qui va arriver.
Oui, mais tant mieux. Mais...
Ouais, nous, on le voit parce qu'on a lancé une offre pour les pépites, donc ces jeunes femmes futures leaders que l'on va placer dans les startups et dans les scale-up. Et elles n'ont pas du tout les mêmes biais qui peuvent être de... On a beaucoup moins ce syndrome de l'imposteur. On fait, nous, des masterclass sur ces sujets avec Ophumé Agency pour nos talents, pour nos alumni. Et c'est vrai que ces jeunes femmes, on s'aperçoit qu'elles sont... un peu plus à l'aise dans leur basket. Moi je suis assez optimiste sur la suite de l'histoire, en tout cas.
Pardon Lorraine.
Alors bon, nous on va se faire les avocats du DAB, mais on parle beaucoup à des start-upers, des entrepreneurs qui aussi construisent les 10 premiers, leur équipe avec les 10 premières personnes, et c'est souvent des hommes. On peut pas jeter la pierre, il y a quand même ce phénomène de, pénurie structurelle de profils. Néanmoins, les médias, on a un rôle à jouer pour promouvoir les profils féminins, sans dire pour autant que les femmes travaillent mieux que les hommes, évidemment. Mais je voudrais terminer sur ce dernier témoignage de Anne-Sophie qui nous écrit: il existe une palette d'outils pour renforcer la place des femmes dans la tech, développer l'attractivité pour les carrières scientifiques, accroître le mentoring et donner un écho médiatique à celles qui s'illustrent. Quelle est la place du mentoring aujourd'hui en France comparé aux États-Unis ou à l'Angleterre par exemple?
Alors il y a clairement une pénurie de rôle modèle dans la tech. En tout cas, ces jeunes femmes qui sortent d'école ou même qui sont encore à l'école ont du mal à voir leur carrière dans la tech, ont du mal à s'identifier. Nous, c'est ce qu'on essaye de travailler aussi au quotidien. Ces jeunes femmes dont je vous parlais, ces jeunes pépites, elles vont être mentorées aujourd'hui par nos talents qui sont beaucoup plus expertes. Et en fait, je pense que c'est tous ces programmes de mentoring, merci de me poser cette question, qui manquaient jusqu'à maintenant, qui manquent, enfin on ne va pas être les seuls, j'espère, à proposer ce type de programme, pour faire évoluer les femmes, pour leur montrer qu'un chemin est possible et qu'un chemin très ambitieux est possible. Et pour arriver à des niveaux qui sont super intéressants pour des jeunes femmes qui se lancent aujourd'hui dans l'entreprise.
Bon, bah, peut-être que ces 20% vont augmenter. Quel est, pour conclure, peut-être votre ressenti sur Vivatech, où vous êtes avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ressort de cette ambiance homme-femme, travail, recrutement?
Moi, je suis très optimiste sur la suite. Je vois déjà beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes dans l'audience, sur les plateaux. Vous avez des plateaux paritaires et c'est super important. Vous avez mentionné la place des médias sur le sujet de la mixité dans des environnements tech à haut niveau. Je pense qu'on a toutes et tous un rôle à jouer sur le sujet. Et Vivatech en prend pleinement conscience. Donc, ça me fait très plaisir d'être là et de voir une telle mixité.
Et ben, on contribue justement à alimenter cette réflexion. Voilà, faire en sorte de chasser ces idées reçues aujourd'hui sur la place des femmes dans la tech. Vous l'avez dit, effectivement, les parents qui n'aident pas, effectivement, le sentiment qu'il faut être un homme, il faut être bon en maths. C'est aussi l'idée qui tourne beaucoup, il faut être bon en maths. Si on n'est pas bon en maths, on ne fera pas carrière dans la tech. Faut battre en brèche cette idée aussi. Ça,
non, ouais, je pense qu'il faut enlever ces stéréotypes-là. Ouais. L'informatique, c'est quand même très différent. Exactement. Des mathématiques, c'est de la logique, évidemment. La logique. Mais on peut être très bonne littéraire et avoir une carrière de développeuse incroyable. Il y a beaucoup d'exemples sur le sujet.
Ouais. Merci beaucoup Sarah, en tout cas. Merci de venir nous voir aujourd'hui. Sarah Huet, cofondatrice des Female Agency. Merci de passer nous voir aujourd'hui sur BFM Business. On marque une petite pause, Lorraine, et puis on va recruter comme tous les jours ici, hein, en direct à Vivatech. À tout de suite.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 60 minutes business. BFM Business avec vous.
Allez, midi 46, on est de retour à Vivatech, ici à la porte de Versailles. Toujours beaucoup de monde, toujours beaucoup d'effervescence. Et pour nous, c'est l'heure de recruter. Ici aussi, Lorraine, on recrute, il n'y a pas de raison.
Évidemment. Oui, il y a une vieille dame et une petite jeune qui vient recruter avec nous ce midi. Une vieille dame, d'abord, c'est L'Oréal, entreprise de 1909. Bonjour, Michael Kinley, vous êtes le vice-président en charge du recrutement à la direction des ressources humaines du groupe L'Oréal. Bonjour.
Bonjour, ravi d'être là avec vous.
Et la petite jeune, ou le plus jeune plutôt, c'est Arthur Bataille. Bonjour, Arthur.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le président de Prophecy, une entreprise conçue depuis ses débuts assez récents à BFM Business 2021, tout jeune. On va commencer avec vous, Michael, si vous voulez bien. Vous êtes à la tête, évidemment, de l'équipe qui recrute à L'Oréal, qui recrute et qui forme. Alors, on va parler forcément beauty tech avec vous et on va zoomer surtout sur les profils tech que vous recherchez, puisqu'on le rappelle, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, nous sommes à Vivatech. Alors, on va vous demander une petite définition de la beauty tech, même si Guillaume vous en avait un peu parlé tout à l'heure.
On a commencé à vendre un peu la mèche, mais rappelez-nous, voilà, Michael, ce qu'on appelle la beauty tech, technologie au service de notre peau. Pour résumer ça comme ça ou pas finalement
Bah, entre autres, pas que la peau. Il y a aussi les cheveux, il y a plein de segments de la beauté. Mais je commence peut-être par la transformation qui a commencé chez L'Oréal en 2010 avec la transformation digitale, avec la montée en puissance notamment des plateformes. de e-commerce. Et donc aujourd'hui, le e-commerce représente déjà 30% du chiffre d'affaires de L'Oréal. Et puis la beauty tech, la beauté augmentée, est une suite logique de cette transformation. Et donc c'est une transformation qui est extrêmement stratégique pour le groupe, parce que elle définit, ou elle nous permet de définir vraiment la beauté, ou l'avenir de la beauté augmentée, qui sera, selon nous, plus inclusive, oui, plus transparente et plus responsable.
Alors, vous êtes très nombreux, presque 90 000 dans le monde, 14 000 en France. Et ça, les recrutements tech et beauté, c'est 700 personnes, mais plus précisément 150 personnes en France dans la tech et la data. Il faut nous donner une idée, Michael, des genres de postes qu'il y a à pourvoir dans ces équipes qui vont participer à définir et puis à évangéliser et démocratiser la beauty tech.
Avec grand plaisir. Donc déjà, aujourd'hui, il y a 6300 experts tech et digitaux qui travaillent dans le domaine et qui travaillent sur les sujets de la beauty tech. Donc c'est un chiffre qui a triplé les 5 dernières années. Donc comme vous le disiez, on cherche d'ici la fin d'année encore 700 experts dans le domaine, juniors mais aussi des experts déjà seniors expérimentés, dont 150 en France. Il y a deux types de profils. Il y a des profils digitaux, le e-commerce, le e-retail, la data, médias, CRM, etc. Et puis des profils plus tech, donc les ingénieurs data, ouais, les experts cloud, les experts produits, la cybersécurité, très très important aussi. Donc on a plein de besoins et on espère que aussi ici VivaTech, ça nous permet vraiment d'avoir plus de personnes qui sont intéressées à postuler chez L'Oréal.
On sait la tension qu'il y a sur de nombreux profils et postes tech, pas seulement sur les profils féminins. Si vous deviez nous donner un ou deux postes qui sont compliqués à pourvoir, même chez vous L'Oréal, est-ce que vous diriez que vous êtes en compétition avec des licornes, avec des startups, avec des gros acteurs GAFA? Avec qui vous êtes en concurrence finalement?
Je pense que le marché est compliqué et challenging un peu pour tout le monde. Donc on a les mêmes, on doit faire face aux mêmes challenges. Effectivement, on cherche un peu tous les mêmes profils. Je pense en tant que L'Oréal, on a quand même pas mal d'atouts qui font la différence. On est un grand groupe, on est un groupe avec des beaux résultats. En même temps, on a gardé cette agilité et cet esprit de start-up au sein de l'entreprise, cet esprit d'entrepreneur. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui permet vraiment aux jeunes et aux profils plus seniors d'avoir un vrai impact sur le business, parce qu'on est aussi moins nombreux. Donc du coup, le périmètre et la marge de manœuvre est un peu plus grande. Les profils qui sont peut-être aujourd'hui un peu plus difficiles à trouver, parce qu'on en a besoin, pas que un ou deux, mais plusieurs, c'est le e-commerce. Oui. C'est tout ce qui est autour du produit, donc des product owners, donc, désolé pour l'anglicisme, et aussi des experts de blockchain.
150 postes à pouvoir, région parisienne. Hein.
En région parisienne. Tout à fait.
Je vois deux jours de télétravail.
Donc là, on parle de Clichy, d'Aulnay, Levallois, etc.
Et ben voilà, 150 postes à pourvoir chez L'Oréal. Comment est-ce qu'on postule?
Ça se passe sur, inévitablement, le site de L'Oréal. Voilà, on vous a dit 150 postes, en particulier tech et data, autour et à Paris.
Vous restez avec nous, Michael. On va accueillir notre deuxième entrepreneur. Juste le temps de rappeler les modalités. Évidemment, comme tous les jours, vous nous posez les questions. Vous nous faites des offres d'embauche et vous venez les présenter sur BFM Business. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux. Avec vous, @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com. Et je vous rappelle que tout ça, c'est évidemment totalement gratuit. Lorraine, on continue de recruter ici.
Mais oui, la cybersécurité, c'est un sujet aussi chez L'Oréal, vous venez de l'entendre. Et ça tombe bien parce qu'on a un expert, c'est Arthur Bataille qui est avec nous. Rebonjour Arthur.
Rebonjour.
À la tête de Prophétie, une entreprise qui fait du conseil sur la cybersécurité. Côté évangélise, on évangélise aussi avec vous, on forme et puis on entraîne à devenir mieux défendu. Comment vous pitcheriez ce que vous faites? Mieux que moi, visiblement.
Alors en fait, on a un écosystème d'experts dans le domaine de la cybersécurité. On est aujourd'hui un peu plus de 500, avec plusieurs marques au sein du groupe. Donc Silicom, la marque historique sur la partie conseil, infrastructure, architecture technique autour des produits de nos clients, ouais, avec la sécurisation qui va avec. Open Cyber sur la partie audit pentest, donc c'est-à-dire la capacité à auditer un système, éprouver les solutions du système et trouver des failles de vulnérabilité. Et la partie Harmony Technologie sur du conseil stratégique cyber, de l'identity access management, donc c'est-à-dire tout ce qui va être la gestion des comptes à privilèges au sein des infrastructures.
On imagine, on le sait, on le dit tous les jours sur notre antenne, une entreprise sur deux est concernée par une cyberattaque, enfin l'été en tout cas l'année dernière. On imagine que vous avez du pain sur la planche. Vous êtes tout jeune, on le disait en introduction, 2021, mais vous êtes déjà 500 parce que vous avez fait quelques acquisitions et vous continuez à recruter 250 postes. On va pouvoir tous les lister, mais Arthur, donnez-nous une idée des postes à pourvoir, les pénuriques, les compliqués, les importants.
Alors très clairement, nous on est capable de recruter tout métier dans, toute personne dans les métiers de l'ingénierie. À partir du moment où les personnes ont une appétence pour le domaine de la cybersécurité, on est capable de les former parce qu'on a une solution de cyberentraînement qui s'appelle SILA, dont vous m'aviez reçu d'ailleurs il y a quelques temps. Et on est capable de faire en sorte de les amener d'un poste d'ingénierie réseau système vers des postes d'analyste SOC, c'est-à-dire la capacité à pouvoir superviser des systèmes, trouver potentiellement des attaquants, des attaques, et survenir aux problèmes pour le compte de nos clients.
Voilà, l'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. Alors vous, c'est encore pire parce que vous faites de l'IA, vous faites de la cyber. Vous êtes sur tous les mots clés où on sait que c'est compliqué, que c'est pénurique. Vous recrutez un peu partout, en France bien sûr, à Paris, mais aussi ailleurs en Europe, en Belgique et en Allemagne, et puis au Canada. Comment se passe, pour conclure Arthur, vos recrutements d'un point de vue global?
Alors globalement, on a plus de 250 postes ouverts aujourd'hui dans le monde, avec forcément un impact très important sur le territoire français qui est notre origine. On est implanté sur la région parisienne, mais également la région Bretagne, Occitanie, PACA et Rhône-Alpes. Et on a autant de postes à pourvoir que potentiellement on aura de candidats talentueux. Sur la partie Montréal, aujourd'hui, on a plus de 50 personnes qui sont en activité pour le compte de nos clients. Et on a vraiment besoin d'avoir des experts, potentiellement même sur le territoire français, qui ont envie de venir accompagner cette aventure et venir ouvrir des portes, parce qu'on a besoin d'eux.
Sans divulguer la stratégie de L'Oréal sur la cybersécurité, est-ce que ça fait écho ce que nous dit Arthur sur les méthodes d'entraînement et sur les postes aussi peut-être à pourvoir? Est-ce que certains se chevauchent chez vous?
Absolument. Oui, oui. Absolument. Donc c'est tout à fait c'est tout à fait ça. Après, on parle beaucoup de profils experts, des profils seniors, et je pense qu'on oublie un petit peu dans tout ça les profils juniors, les jeunes diplômés. Je trouve, en tant que grande entreprise ou entreprise tout court, on a un rôle extrêmement important à jouer, à former aussi ces jeunes. Je vous donne un exemple, L'Oréal Brainstorm, qui est une compétition mondiale qui cette année a fêté ses 30 ans et qui a réuni cette année 83 000 participants. Et on a trois filières finalement, dont une qui est tech. Donc il y a 25 000 de jeunes dans le monde entier qui sont inscrits et qui ont joué et qui ont appris, surtout pendant 4-5 mois, vraiment les métiers tech. Et donc ça c'est nos experts de demain finalement.
Il y a des besoins.
Alors, on parle cybersécurité, il y a Frédéric Simotel qui arrive dans le champ de la caméra
et qui pourrait nous en parler pendant des heures. Ouais. 250 postes donc à pourvoir chez Prophecy. Comment est-ce qu'on postule?
Ça se passe sur LinkedIn. Vous allez noter l'écriture un petit peu exotique de Prophecy, que je ne vous appelle pas pour une fois. Et puis il y a une adresse à laquelle vous pouvez écrire directement, c'est recrutement@prophecy.com. et vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des 250 postes à pourvoir sur LinkedIn et puis sur le site OpenCyber.com et l'autre site harmonie-technologie.com.
Tout ça est enregistré. Merci messieurs, Arthur Bataille pour Prophecy. Merci beaucoup Michael Kinley, merci d'avoir été avec nous, vice-président en charge du recrutement à la DRH du groupe L'Oréal avec nous. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui dans 60 minutes business. Demain, c'est vendredi.
Oui, c'est retour au studio d'Altice Campus. Demain, on se posera la question de comment voyager professionnellement dans un monde post-Covid. Voilà, les voyages d'affaires entre restrictions, écologie aussi, et puis économie de budget. Comment on voyage, comment on voyagera dans les prochains mois? On répond à vos questions et puis on brainstorm avec vous, nos auditeurs, téléspectateurs.
Vaste, vaste sujet. Voilà, Lorraine, on se retrouve avec vous pour en parler demain dès midi et demi. Et puis nous, dès midi, bien sûr, 60 minutes business pour dérouler ensemble l'actualité économique comme tous les jours. Voilà, 13h dans un instant, Nicolas Dose arrive, le best-of des experts. Bonne journée et à demain pour nouvelles aventures.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.